Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui je vous propose de feuilleter ensemble un ouvrage autour de Guizot. Pourquoi Guizot ? Eh bien parce qu'on lui doit d'avoir rétabli, ou du moins fait rétablir, par ordonnance royale du 26 octobre 1832, l'Académie des sciences morales et politiques qui avait été dissoute en 1803 par Bonaparte. François Guizot, ministre de l'Intérieur en 1830, pendant la monarchie de Juillet, puis ministre de l'Instruction publique, devient ambassadeur à Londres, puis de retour en France, ministre des Affaires étrangères. Bref, il fut en vérité le chef réel du gouvernement français durant 18 ans, jusqu'en 1848. Son œuvre politique est considérable, son œuvre d'historien ne l'est pas moins. Guizot était l'un des 7 premiers membres de l'Académie des sciences morales et politiques, rétabli donc en 1832. L'année suivante, il entrait à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et en 1836 à l'Académie française. Il suivait de près les séances et les travaux de ces trois académies. Il était consulté avant chaque candidature. Outre de nombreux livres d'histoire, Guizot nous a laissé 8 volumes de mémoires. Son œuvre est toujours étudiée, comme en témoigne un ouvrage récent dont nous allons parler, celui de M. Robert Legrand, qui s'intitule « Guizot et son temps, propos et portraits » et qui est publié chez Paillard Éditeur à Abbeville dans la Somme. Monsieur Legrand, qui est un auteur originaire de Picardie, qui malheureusement n'a pas pu se déplacer, a publié plusieurs ouvrages couronnés par l'Académie française et par l'Académie des sciences morales et politiques. Dans les mémoires de Guizot, Robert Legrand a sélectionné les portraits que celui-ci dresse de ses contemporains, plus d'une centaine, et l'on prend un vif intérêt à lire son jugement sur les plus grands noms de son temps. C'est cet intérêt et ce plaisir que je vous invite aujourd'hui à découvrir en écoutant plusieurs passages des mémoires de Guizot extraits du livre de Robert Legrand et lus par Virginia Crespo. Commençons, si vous le voulez bien, par le portrait de Chateaubriand, dont Guizot ne partageait pas les idées politiques, mais qu'il admirait néanmoins.
Je le critique sans le rapetisser. Je le blâme, mais je l'admire. Monsieur de Chateaubriand a parcouru toutes les idées, tenté toutes les carrières, aspiré à toutes les gloires, épuisé les unes, touché aux autres. Rien ne lui a suffi. Mon défaut capital, a-t-il dit de lui-même, c'est l'ennui, le dégoût de tout, le doute perpétuel. Étrange disposition dans un homme voué à restaurer la religion et la monarchie. Aussi la vie de Monsieur de Chateaubriand a-t-elle été un contraste et un combat perpétuel entre ses entreprises et ses penchants, sa situation et sa nature. Ambitieux comme un chef de parti et indépendant comme un enfant perdu, épris de toutes les grandes choses et susceptible jusqu'à la souffrance pour les plus petites, insouciant sans mesure dans tous les intérêts communs de la vie, mais passionnément préoccupé sur la scène du monde, de sa personne comme de sa gloire et plus froissé dans des moindres échecs que satisfait des triomphes les plus éclatants. Dans la vie publique, plus jaloux de succès que de pouvoir, capable dans une circonstance de concevoir et de mettre hardiment à flot un grand dessein, mais incapable de pratiquer avec énergie et patience dans le gouvernement une politique bien liée et fortement suivie. Grand et noble esprit qui, soit dans les lettres, soit dans la politique, connaissait et savait toucher les cordes élevées de l'âme humaine, mais plus propre à frapper et à charmer les imaginations qu'à gouverner les hommes, et avide sans mesure de louanges et de bruit pour satisfaire son orgueil, d'émotions et de nouveautés pour échapper à son ennui.
Après ce portrait sensible de Chateaubriand par Guizot, poursuivons par celui qu'il dresse du maréchal Bugeaud.
Quand le 29 décembre 1940, le roi, sur la demande du cabinet, nomma le général Bugeaud, gouverneur général de l'Algérie. Je ne me dissimulais point les conséquences de ce choix et les obligations, j'ajoute les difficultés qu'il nous imposait. Le général Bugeaud n'était pas un officier à qui l'on pût donner telle ou telle instruction avec la certitude qu'il bornerait son ambition à les exécuter de son mieux et à faire son chemin dans sa carrière en contentant ses chefs. C'était un homme d'un esprit original et indépendant, d'une imagination fervente et féconde, d'une volonté ardente qui pensait par lui-même et faisait une grande place à sa propre pensée en servant le pouvoir de qui il tenait sa mission. Ni l'éducation, ni l'étude n'avaient, en la développant, réglé sa forte nature. Jeté de bonne heure dans les rudes épreuves de la vie militaire et trop tard dans les scènes compliquées de la vie politique, il s'était formé par ses seules observations et sa propre expérience, selon les instincts d'un bon sens hardi qui manquait quelquefois de mesure et de tact, jamais de justesse ni de puissance. Il avait sur toute chose, et en particulier sur la guerre et les affaires d'Algérie, ses idées à lui, ses plans, ses résolutions.
On connaît mieux le maréchal Bugeaud après ce portrait dressé de lui par Guizot. Voyons maintenant celui et écoutons celui de Lafayette, l'un des plus touchants sans doute. En voici un extrait.
Je ne puis penser à Monsieur de Lafayette sans un sentiment d'affectueuse tristesse. Je n'ai point connu de caractère plus généreux, plus bienveillant pour tous, plus ami de la justice envers tous, plus prêt à tout risquer pour sa foi et pour sa cause. Sa bienveillance, un peu banale envers les personnes, n'en était pas moins, pour l'humanité en général, vraie et profonde. Son courage et son dévouement étaient faciles, empressés, sérieux, sous des apparences quelquefois légères et d'aussi bonne aloi que de bonne grâce. Il a eu dans sa vie une constance de sentiments et d'idées et des jours de résolution vigoureuse qui feraient honneur aux plus fermes amis de l'ordre et de la résistance. En 1791, il a fait tirer au Champ de Mars sur les meutes parées du nom de peuple. En 1792, il est venu en personne demander au nom de son armée la répression des Jacobins. Il est resté à part et debout sous l'Empire. Mais il manquait de jugement politique, de discernement dans l'appréciation des circonstances et des hommes. Il avait un laisser-aller sur sa propre pente, une imprévoyance des résultats probables de ses actions, un besoin permanent et indistinct de faveur populaire qui le faisait dériver bien au-delà de ses vues et se livrer à des influences d'un ordre très inférieur, souvent même contraire à sa nature morale comme à sa situation. Nulle vie n'avait été plus exclusivement, plus passionnément politique que celle de Monsieur de Lafayette. Nul homme n'avait plus constamment placé ses idées et ses sentiments politiques au-dessus de toute préoccupation et de tout autre intérêt. La politique fut complètement étrangère à sa mort. Malade depuis 3 semaines, il touchait à sa dernière heure. Ses enfants et sa famille entouraient seuls son lit. Il ne parlait plus. On ne savait pas s'il voyait encore. Son fils, Georges, s'aperçut que, d'une main incertaine, il cherchait quelque chose sur sa poitrine. Le fils vint en aide à son père et lui mit dans la main un médaillon que M. de Lafayette portait toujours suspendu à son cou. M. de Lafayette le porta à ses lèvres. Ce fut son dernier mouvement. Ce médaillon contenait le portrait et des cheveux de Mme de Lafayette, sa femme, qu'il avait perdue depuis 27 ans.
Très beau portrait de Lafayette par Guizot que nous trouvons dans l'ouvrage de Monsieur Robert Legrand qui a sélectionné tous les portraits qui se trouvent dans les 8 volumes des mémoires de Guizot. Guizot et son temps, propos et portraits. Nous allons tout de même terminer, Virginia, si vous le voulez bien, par le portrait d'une femme, et non des moindres, puisque c'est la célèbre Madame Récamier sur laquelle Guizot ne tarit pas d'éloges.
Ce qui me frappe surtout en elle, c'est l'unité de son caractère et de sa vie. Elle a traversé des temps très divers, dans des situations et entourée de relations aussi très diverses. Elle n'en a point contracté les incohérences, ni accepté les luttes, ni subi les vicissitudes. Sous le Directoire, sous l'Empire, sous la Restauration, sous la monarchie de 1830, à Paris, à Lyon, à Rome, à Naples, à l'Abbaye aux Bois, à la Chaussée-d'Antin, avec ses amis bonapartistes, légitimistes, libéraux, riches ou ruinés, errantes dans l'exil ou retirées dans un couvent, elle est restée constamment la même, gardant en dépit des influences et des exigences extérieures ses sentiments, ses idées, ses goûts, ses habitudes personnelles. On peut dire que tel de ces régimes lui convenait mieux ou lui était plus sympathique que d'autres. Elle n'a appartenu à aucun. Elle ne s'est laissée marquer d'aucune empreinte, ni soumettre à aucun joug. Elle a été toujours et partout et avec tout le monde, Madame Récamier, rien de moins, rien de plus et rien d'autre. Il y a bien de la dignité et aussi de la force cachée sous une apparence douce dans cette indépendance et dans cette permanence de la personne morale, quel que soit l'air qu'elle respire, les circonstances qui l'entourent et les spectacles auxquels elle assiste. C'est grâce à ce mérite général que Madame Récamier a possédé un mérite particulier, rare en tout temps et précieux surtout de nos jours et pour elle. Elle est restée toujours modérée et équitable au milieu des passions politiques les plus vives. Ses plus intimes amis, ses plus fervents adorateurs ont été, la plupart du moins, des hommes politiques, souvent adversaires, quelquefois ennemis. Elle les comprenait tous et leur faisait justice à tous. Elle avait un goût très vif pour tout ce qui était distingué, élevé, beau ou bon, brillant ou attachant. Elle le sentait, le démêlait à travers toutes les opinions, sous tous les drapeaux, s'en saisissait comme d'un trait d'union entre elle et la personne qu'elle remarquait à ce titre. Et le trait d'union devenait un lien que rien ne pouvait rompre.
Merci Virginia de nous avoir lu ces portraits de Guizot. Ce ne sont que quelques-uns des portraits qu'on peut trouver dans la sélection qu'en a faite M. Robert Legrand dans son ouvrage « Guizot et son temps, propos et portraits » qui est publié par Paillard éditeur à Abbeville dans la Somme. Je voudrais dire à ce sujet, au sujet de ce livre, qu'il a été déposé sur le bureau de l'Académie, comme on dit, c'est-à-dire signalé pour son intérêt par M. Jacques Dupaquet assez récemment au cours de la séance du 9 février 2004. Et M. Dupaquet, qui présentait cet ouvrage, en a dit ceci. Il s'agit de morceaux très bien choisis, d'une anthologie utile qui rendra de grands services à ceux qui n'auront pu se plonger dans les 8 tomes des mémoires de Guizot. C'est vrai qu'après avoir écouté ces portraits, on a envie de lire les mémoires. 8 tomes, il faut tout de même prendre son temps. Je signale aussi que M. Gabriel de Breuil, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, a publié un ouvrage consacré à Guizot aux éditions Perrin et que nous aurons prochainement l'occasion de le retrouver dans une émission au fil des pages. Au revoir.